Chers amis de Radio Galère, bonjour. J'ai le plaisir de vous accueillir tous les mardis, de 18h à 19h, dans l'agora de l'Université Populaire de Marseille Métropole, sur la bande FM 88.4, sur le canal 8C de la radio numérique terrestre et en diffusion Internet. L'agora vous propose des régalades, des pépites, des projets, des initiatives de la recherche, de la créativité, de la cité. Amis auditrices, amis auditeurs, bonjour. J'ai le plaisir de m'entretenir aujourd'hui avec Martin Huc pour la présentation de ce livre « Marseille interdite, 1873-1943, histoire du quartier réservé », publié par la Manufacture du Livre en juin 2024. Bonjour Martin Huc.
Bonjour.
Martin Huc, vous êtes chercheur indépendant, vous animez depuis 2016 le site « Un peu d'histoire du milieu marseillais, du milieu français » consacré au crime organisé en hexagonal. Et quelles sont vos disciplines de recherche ?
Moi, c'est l'histoire, principalement.
D'accord.
Oui,
c'est
oui.
Pas de la sociologie.
Non, non. Moi, j'ai étudié l'histoire. J'ai arrêté en cours de route, mais j'ai gardé un goût pour cette matière. Donc, c'est sous cet angle-là, vraiment, que j'ai abordé ce sujet-là, quoi. Historique et criminologique, si on peut dire. Même si ça touche à beaucoup d'autres sujets, c'est principalement l'histoire au départ.
Et c'est votre premier livre. Et pourquoi ce livre?
Parce qu'il n'existait pas. Je pense qu'il fallait que quelqu'un un jour écrive un livre sur ce quartier-là, qui a été très important dans l'histoire de Marseille, à un moment donné, mais que tout le monde semble avoir oublié. Aujourd'hui, à part des férus d'histoire marseillaise, vraiment le peuple marseillais ne connaît pas l'existence de ce quartier, ou très peu, et de son histoire tragique, notamment la fin, puisqu'il a été rasé par les nazis. Je pense que c'est un livre nécessaire, et puis surtout moi, au fil de mes recherches, j'ai été aspiré par ce sujet. Ça devenait presque une nécessité pour moi, c'est-à-dire de mettre sur papier tous les documents que je découvrais et les organiser dans un livre.
Ah oui, c'est un travail de recherche absolument énorme.
Tout à fait, oui. Oui, j'ai essayé de faire quelque chose de plus complet possible. Même si forcément il y a des sources qui m'ont échappé, peut-être des angles d'approche que je n'ai pas eu. Mais dans l'ensemble, j'ai essayé d'être le plus exhaustif possible et de rien oublier ce qu'on pourrait dire sur ce quartier-là.
Combien de temps de recherche pour unir les sources?
3 années à peu près.
Ah oui, quand même.
Enfin, auparavant, je m'étais déjà intéressé au sujet à titre personnel. J'avais déjà un petit peu une connaissance, mais disons que la vraie recherche et l'écriture, c'est 3 ans de travail au total.
Trois ans, c'est le temps nécessaire pour la rédaction d'une thèse.
C'est ça, exactement, oui, tout à fait. Ma thèse à moi, mais faite indépendamment de l'université, peut-être.
Est-ce que vous faites une relation entre le crime organisé et le quartier réservé de Marseille?
Oui, absolument, oui. Oui. Alors, il y a une théorie, en tout cas, qui dit, et je pense qu'elle est à peu près juste, que le milieu marseillais, l'origine, c'est vraiment une naissance dans ce quartier-là. Donc, le quartier réservé, qui était le quartier de Marseille réservé à la prostitution, où la prostitution était légale, a fini par attirer toutes les aspirations du monde proxénète de Marseille. C'est-à-dire que c'était l'endroit où il y avait le plus d'argent à gagner. Donc, tous les proxénètes de Marseille voulaient avoir leur place. C'est là, faire de l'argent. Et c'est là où vraiment les milieux de différents quartiers ont fini par se mélanger et s'unifier. Je pense que c'est autour de 1900, à cet endroit-là, que le crime organisé marseillais a pris racine et a pris naissance. Même s'il y a d'autres embryons ailleurs, mais je pense quand même que ça a accéléré le mouvement, quoi.
À ce moment, à cette époque-là, les trafics de drogue n'existaient pas.
Alors, en 1900, non, mais dès l'après-guerre, ça a commencé par contre. Il y a eu un début de trafic de drogue avec l'opium et la cocaïne principalement, un petit peu le haschich, un petit peu l'héroïne. Et il y a eu déjà un début de trafic de drogue. Bah, Marseille étant un port, c'est d'autant plus facile de s'en procurer. Et dans les milieux nocturnes, c'est là où il y avait le plus de consommateurs, notamment dans le quartier réservé, qui était un quartier de prostitution, mais aussi de fêtes, de musique, etc. Donc il y avait déjà les premiers dealers de drogue qui sont apparus, disons, après-guerre, quoi, principalement.
Géographiquement, où se situait le quartier réservé de Marseille?
Alors, c'est, on appelait, une des appellations de ce quartier-là, c'était le quartier derrière la mairie. Donc, grosso modo, c'est derrière l'hôtel de ville. Et aujourd'hui, le nord du quartier est délimité par la rue Caisserie. Donc, le quartier n'existe plus, mais si on veut le placer sur une carte, à l'ouest, c'est à peu près la rue Henri Tasseau. À l'est, c'est la rue de la Prison. Et au sud, le quai du Port. Si vous faites un carré sur une carte moderne, un rectangle, c'est à peu près à cet endroit-là. C'est derrière la mairie, un petit peu sur la gauche, quoi.
Pourquoi cet espace est appelé quartier réservé?
Alors ça, c'est une appellation au départ, qui est une appellation habituelle, qui est devenue officielle par la suite. C'est réservé à la prostitution, si vous voulez. C'est le titre complet, ça aurait été quartier réservé à la prostitution. On appelait ça un quartier réservé. Ce n'était pas une appellation typiquement marseillaise, mais on l'utilisait dans toutes les villes qui avaient décidé d'instaurer un quartier réservé officiel. C'est ce nom-là qui était employé. Donc, à Toulon, par exemple, également dans les colonies, à Casablanca, il y avait Bousbir, qui était le quartier réservé, un des quartiers réservés les plus célèbres du monde. On avait également à Brest, à Nantes, il y avait ça, plusieurs municipalités qui avaient décidé d'instaurer ce type de quartier avec ce type d'organisation.
Et la prostitution subissait déjà l'exportation, puisqu'il y avait des bataillons de femmes qui étaient envoyés dans les lieux où les militaires étaient en campagne.
Oui, absolument. Militaire, et puis également dans les. Ce qu'on sait assez peu, mais énormément en Amérique du Sud, où il y avait beaucoup d'immigration masculine, donc un manque de femmes par conséquent. Et on sait qu'il y a énormément de proxénètes français qui se sont installés en Amérique du Sud, notamment ceux qui avaient des problèmes avec la justice, qui se cachaient, qui s'évadaient, et qui, une fois en Amérique du Sud, faisaient venir leurs filles, quoi, enfin les prostituées qui travaillaient pour eux, et là-bas qui ont. Pour la plupart devenus très riches, quoi. Et notamment, si beaucoup de bandits évadaient du bagne. Parce que,
D'accord.
on s'évadait relativement facilement du bagne. Les autorités françaises, tant qu'ils ne revenaient pas en France, ça ne les dérangeait pas, tant qu'ils restaient en Amérique du Sud. Il y a eu comme ça, dans beaucoup de ports importants d'Amérique du Sud, des petites communautés de gangsters, pas uniquement marseillais, français en général, et même d'Europe, s'installaient, qui ouvraient des bordels. À, par exemple, Buenos Aires, c'est là où il y en a eu le plus, mais également ailleurs, à Caracas, à La Havane, aussi à Cuba. Tout un tas d'histoires comme ça, et on dit que le milieu français, c'est à ce moment-là qu'il est devenu réellement riche et puissant, c'est grâce à ces réseaux internationaux qui ont donné beaucoup d'argent et beaucoup de connexions dans le monde entier.
Vous citez Buenos Aires, ça me fait penser à la naissance du tango, qui était une danse pratiquée par des hommes, parce qu'il n'y avait dans les fermes, dans les ranchs, il n'y avait pas de femmes. Donc c'était les hommes qui
Également.
dansaient le tango ensemble.
Exactement. Et ben, les proxénètes marseillais et d'autres ont participé à faire venir des femmes, des hommes esseulés, notamment.
Et qui ont appris à danser le tango.
Exactement, voilà. La boucle est bouclée.
Qui habitait le quartier réservé à part les prostituées?
Alors, il y avait, d'après les recensements, il y avait à peu près 5 000 personnes qui vivaient là. Donc, c'est un assez
Ah,
petit
c'est
quartier, hein.
énorme.
Ouais, c'est une densité de population énorme, parce que le quartier était relativement petit. C'est 300 mètres de long sur 100 mètres de large, grosso modo, quinzaine de ruelles. Et donc, mais c'était la vieille ville, ce qu'on appelait la vieille ville à l'époque, qui était extrêmement densément peuplée. C'était des quartiers très pauvres. Et ceux qui habitaient là, donc c'était beaucoup, il y avait énormément d'immigrés italiens. À peu près la moitié des habitants étaient italiens. Également des Marseillais, des Corses, des gens d'un peu partout. Quand même, principalement, c'est l'origine italienne qui dominait. C'était des petites gens qui travaillaient principalement dans des métiers liés aux activités du port. Donc, beaucoup de dockers, évidemment, des marins, des pêcheurs, des poissonnières, également des petits artisans. Et c'était le petit peuple de la vieille ville de Marseille, quoi. Et qui, a priori, d'après les témoignages qu'on en a, il y a des gens qui ont témoigné dans les années 70, notamment, il y avait une très bonne entente. Entre le monde proxénète et le monde petit peuple de ces quartiers-là, c'est-à-dire que les prostituées et les ménagères discutaient ensemble, etc., les petits se déchoyaient. Il y avait une espèce de concorde, c'est ce que tout se rappelle de ça, quoi, une espèce de respect mutuel entre le monde nocturne de la prostitution et le petit peuple du Vieux-Port.
Oui, le fait qu'il y ait beaucoup d'Italiens s'explique, puisque le panier était essentiellement habité par des Napolitains. Et donc, c'est
Alors,
normal que cette. Pardon?
j'interviens, il ne faut pas confondre, souvent on confond le panier et le quartier qui était en dessous. Ça s'appelait Saint-Jean en fait. C'est-à-dire que la rue Caisserie
D'accord, oui.
encore était la limite. Et donc en dessous, le quartier qui a été détruit, qui allait plus ou moins du panier jusqu'au Vieux-Port, c'est Saint-Jean. Alors par habitude, comme Saint-Jean n'existe plus, on a l'habitude de dire le panier, c'est un quartier qui, au niveau urbanistique, lui ressemblait beaucoup. Des ruelles tortueuses, etc. Mais le panier et Saint-Jean étaient quand même deux quartiers séparés qui étaient même rivaux à l'époque. C'est que les gamins du panier et de Saint-Jean se tapaient dessus. On appelait ça le jeu du bataillon, en ce temps-là. Des gamins de 8-10 ans qui passaient leur journée à se balancer des pierres, à se taper dessus pour des raisons de rivalité, de quartier, quoi, comme ça existe encore aujourd'hui ailleurs, quoi.
J'ai connu, non pas ces bataillons, mais des pratiques semblables lorsque j'étais gamin. Avec mes parents, nous habitions à la Cabucelle et le jeudi, nous allions jouer au foot derrière le camp de Gitans, qui était installé au boulevard du Capitaine Lagesse, derrière l'usine Berliet. Et donc, en traversant le camp de Gitans, on se faisait une bagarre avec les gamins du camp. Après, on jouait au foot ensemble, mais on se mélangeait, quoi. Dans les équipes, il y avait des gitans ou des pas gitans, où on jouait les gitans contre les autres. Et puis, si on n'était pas fatigué à la fin du match, eh ben, on recommençait à se mettre une petite bagarre avant de rentrer à la maison. Mais il n'y avait aucune méchanceté, c'était vraiment de la taquinerie. Enfin, c'était dans l'habitude. Et c'était comme ça que les garçons
Bien
devenaient.
sûr, ouais. Ben disons que là, dans les traces qu'on a, il y a un peu des deux. Il y a à la fois ces bagarres un peu gentilles de garçons qui peuvent parfois tourner à des choses beaucoup plus violentes, quoi, d'après les témoignages qu'on a, etc., quoi. Des gens, on a des positions au commissariat avec des gamins qui sont attachés à des réverbères, qu'on lapide à coups de pierre, etc., quoi. Donc des choses peut-être un peu moins amusantes. Mais dans l'ensemble, effectivement, ça restait principalement des gamineries de quartier, quoi.
C'est ça. Ouais. Mais dans les témoignages que vous rapportez plein de témoignages de personnes dont les parents ou les grands-parents ont habité ce quartier il y a fort longtemps et avant qu'il soit démoli. Et je discutais il y a quelque temps avec Ascaride qui disait, mais moi j'ai toujours eu envie de retourner habiter à l'endroit où mes parents habitaient. Donc elle a maintenant un logement qui est dans les immeubles Pouillon.
D'accord. Ah ouais. Oui, puisque ses parents sont des immigrés italiens, si je ne me trompe pas,
C'est
et
ça.
qui ont vécu la rue Bonnetterie, il me semble que c'est dans cette rue-là qu'ils étaient. Oui, son père avait barbier, son grand-père plutôt. Son père était barbier, si je ne me trompe pas.
Alors, ben c'est pareil. Moi, j'ai connu aussi dans le quartier où j'étais gamin, j'ai connu les barbiers. Et il y avait dans chacune des échoppes, il y avait un grand meuble avec plein de petits tiroirs, dans lesquels les clients laissaient leur blaireau et leur rasoir.
Ah, il fallait venir avec le sien
Non,
propre, quoi.
les clients laissaient en permanence
D'accord.
le
Oui.
blaireau et le rasoir chez le barbier.
Et ouais, bah comme ça évitait pour les risques de contamination, j'imagine. On était sûr d'être
C'est
rasé
ça,
avec
c'est
son
ça.
propre rasoir.
À cette époque-là, je pense qu'ils n'avaient pas assez le souci de contamination. On n'en était pas à ce niveau d'hygiène et de précaution.
Et
Mais dans tous les
pourtant,
cas, c'était.
en fait, si, moi j'ai trouvé des traces dans les journaux d'époque. Où il y avait apparemment énormément de gens qui tombaient malades en se faisant couper chez le barbier, par exemple. Et donc, il y avait ce souci-là existait. Les barbiers achetaient des services antiseptiques, des espèces pour enlever les bactéries sur les rasoirs au gaz, principalement, je crois. En fait, il y avait ce souci, malgré tout. C'est pas des contaminations anti-Covid, quoi. C'était des choses un peu plus graves, mais il y avait un souci d'hygiène, quoi, en tout cas, à partir de 1900, 1910, je crois. Donc en fait, il existait déjà malgré ce qu'on peut croire. Et c'est ce que, enfin, en travaillant sur ce livre, sur différents sujets, ce dont je me suis rendu compte, c'est notamment toutes ces permanences qui existent des choses qu'on pense très modernes, comme vous avez dit tout à l'heure, le trafic de drogue. Je pense que la vente de drogue dans la rue, c'est quelque chose qui est actuel ou qui existe depuis quelques décennies. En fait, on voit qu'à déjà il y a un siècle, c'était déjà très présent, quoi. Pas dans les mêmes quantités qu'aujourd'hui. Il y a comme ça tout un tas de phénomènes qui sont beaucoup plus anciens que ce qu'on pourrait croire. C'est ce que ce livre m'a permis de découvrir en touchant à beaucoup de sujets très variés qui vont au-delà du simple proxénétisme. Voilà, c'est un des aspects intéressants de ce bouquin, je pense.
Mais à propos des rasoirs, dans la rue Colbert, il y avait une armurerie, coutellerie, et la dame qui tenait cette boutique m'avait montré dans sa cave une machine qui était utilisée pendant la guerre et qui servait à affûter qu'on appelle les lames gilettes et les lames à deux faces. Et cette machine était assez intelligente. Je crois qu'elle pouvait affûter 12 lames en même temps. Et
Et comme quoi.
j'ai pas eu le réflexe de récupérer cette machine. Je pense qu'elle a dû être jetée, détruite. Et c'est dommage parce que c'était un bel objet.
Mais ouais, comment on savait les faire autrefois?
C'était des bandes de cuir qui tournaient circulairement et qui avaient aussi un mouvement d'oscillation. Donc la lame était à la fois affûtée sur le champ, mais aussi sur la tranche.
D'accord. Et bien, comme quoi la technologie fonctionnait déjà avant.
Racontez-nous d'autres témoignages de personnes dont les parents habitaient dans le quartier.
Ah, ça en a beaucoup. Bah, en fait, on a même des témoignages de gens qui ont vécu dans le quartier. Et la chance qu'on a eue en tant que chercheur, c'est que plusieurs chercheurs dans les années 70 ont allé retrouver les anciens habitants de ce quartier. Et les ont interrogés, ils ont mis tout ça sur papier. Je crois que le document, on peut le trouver à l'Alcazar et dans différentes universités. Donc, il y a un gros compte-rendu d'une cinquantaine de pages avec ces interviews, quoi, des anciens habitants du quartier. Donc, comme ça, on a des témoignages bruts de gens qui l'ont directement vécu, quoi. Ça a été une source très importante de travail pour comprendre comment les simples habitants vivaient ce quartier. Et donc, c'est foisonnant foisonnant d'anecdotes, quoi. On raconte quand les prostituées avaient quand même une certaine pudeur et quand certaines femmes un petit peu importantes du quartier passaient, elles ne voulaient pas être vues toutes nues, donc elles se cachaient derrière leur porte pour pas être vues en petite tenue, etc. Il y avait malgré tout une certaine, c'est assez surprenant, mais une certaine pudeur dans le quartier. Et il y a tout un tas d'anecdotes comme ça. Un gamin qui raconte, qui se rappelle quand il avait 10-11 ans, il jouait de l'orgue de Barbarie dans les bordels. On lui donnait une petite pièce en échange et après il partait s'acheter des bonbons comme n'importe quel gamin, quoi. Alors qu'il fréquentait un monde quand même très, très glauque, quoi, finalement, puisque des bordels, etc., quoi, avec des femmes qui se prostituent. Mais lui, il restait à faire sa musique et avec cette idée, j'y vais parce que comme ça, je peux m'acheter mes bonbons le lendemain grâce à quelques pièces qu'on va me donner en échange de cette musique. Comme ça, il y a tout un tas de petites anecdotes un peu amusantes comme celle-là, quoi. Et il y avait énormément de superstitions. Un marchand de journaux à qui on demandait d'allumer un de ses journaux, de le brûler et de le faire tournoyer autour de certaines femmes parce qu'elles pensaient que ça enlevait le mauvais œil. Ça leur permettait, c'est une dernière chance, c'est une espèce de superstition un peu type méditerranéenne, quoi, qui vient du sud de l'Italie. Et voilà, comme ça, tout un tas de petites histoires amusantes et d'autres moins amusantes, quoi, parce que c'est aussi un quartier extrêmement violent. Avec un nombre de meurtres, de bagarres au couteau, au pistolet, etc., qui est phénoménal, quoi. Et vraiment beaucoup, enfin, avec beaucoup d'alcool, beaucoup de virilité exacerbée, un petit peu, tous ces marins qui revenaient du large, des soldats qui partaient au front, il y avait tout ça. Donc, ça créait beaucoup de tensions, beaucoup de cosmopolitisme aussi. Donc, il y avait des gens qui ne parlaient pas forcément la même langue qui se trouvaient face à face. Et donc, les bagarres étaient quotidiennes, quoi. Le soir venu, la journée après. La journée, c'est un quartier relativement tranquille, et le soir, c'est relativement dangereux, quoi.
On trouvait dans ce quartier de Marseille, comme dans les autres quartiers, ce que j'appelle les métiers de rue, qui sont aujourd'hui pour la plupart disparus.
Absolument, ouais. Oui, il y avait les rémouleurs, etc. Il y avait les rempailleurs de chaises. Il y avait aussi tout un tas de les métiers un petit peu
Il y avait, j'imagine, la marchande de limaçon.
Évidemment, évidemment, de Limaçon, il y avait le marchand de Montalot aussi, qui
Oui,
étaient des marchands ambulants. Ils avaient
c'est ça.
chacun leur passage dans le quartier, avec leurs cris pour faire venir les clients. Il y a tout un tas, il y avait le vendeur de glace aussi. Enfin, c'est très large. Il y a aussi beaucoup de, ce qu'on pourrait appeler de saltimbanques, des artistes de rue, des cracheurs de feu. Il y avait les Hercules quoi, qui arrivaient à plier des barres en fer. Il y avait les montreurs d'ours, les montreurs de singes savants. Comme j'ai dit tout à l'heure, ceux qui jouaient l'orgue de Barbarie, beaucoup de musiciens aussi. Musiciens, musique napolitaine, musique la chanson réaliste aussi. Enfin, c'est un quartier très vivant, très bruyant, et où vraiment tout se passait dans la rue, quoi. Les appartements étaient très petits et les familles assez nombreuses. Les gamins passaient leur journée dans la rue, les adultes aussi, c'était dans la rue que les choses se passaient.
Vous indiquez, je cite, avant d'aller plus avant dans l'histoire du quartier réservé, il y a un point de vue à ne pas perdre. Tout cet univers repose sur une activité économique bien précise, l'exploitation du corps des femmes par les hommes au service des hommes.
Tout à fait. Et oui, parce que derrière tout ce que je raconte, donc il y a un certain folklore qui peut rendre ce quartier un peu attrayant, si on veut. Il ne faut pas oublier que derrière, il y a énormément de misère, énormément d'exploitation. Et il ne faut jamais perdre de vue ce point-là, quoi, qu'on peut avoir tendance, avec certains témoignages peut-être qui ont un peu édulcoré le passé, avec certains reportages qui ont été faits à l'époque, on peut avoir tendance à y voir quelque chose d'un peu pittoresque, quoi, un peu rigolo, etc. Il ne faut pas oublier ce qui se cachait derrière, quoi. C'était des femmes qui, comme j'ai dit, dont on exploitait le corps tant qu'elles étaient jeunes, et une fois passé l'âge de la jeunesse, elles étaient jetées comme des malpropres, quoi. Et même si elles étaient souvent relativement, elles entraient dans ce monde-là relativement de manière volontaire, c'est par la misère principalement, elles étaient quand même exploitées d'une manière tout à fait injuste, quoi. C'est-à-dire qu'en général, 100% de ce qu'elles gagnaient était réservé à leur homme. On leur laissait un peu d'argent de poche pour pouvoir vivre, mais effectivement.
Katharina Bellon, qui est docteur en études cinématographiques et histoire, a publié en 2021 aux presses universitaires de Provence Traces de Marseille au cinéma, histoire, mémoire et topographie d'une ville, 1921-2011. Et elle se plaint du fait qu'il n'y a pas de traces cinématographiques justement de la démolition du quartier de Saint-Jean.
Oui, c'est bon?
Oui.
Alors attendez, voilà, très bien. Donc je disais oui, la destruction du quartier, on a quand même quelques traces filmées dans les journaux filmés de l'époque sur l'INA, où on trouve un petit reportage de 1 minute peut-être, reportage d'époque. On voit quelques traces. Alors peut-être qu'elle parle dans le cinéma de fiction, quoi. Je sais pas.
Non, dans le cinéma d'histoire, dans le cinéma de témoignage.
Alors par contre, ce qu'on n'a pas, c'est des images du quartier réservé même. C'est-à-dire qu'il y a eu des films qui se déroulent dans le quartier réservé, mais qui a été reproduit en studio. Par contre, des images vraiment des rues du quartier réservé filmées, ça, a priori, je n'ai connaissance d'aucun film qui montre le
C'est ça.
quartier réservé tel qu'il était. Et il ne semble pas que ça existe. Ou alors peut-être quelques touristes ont filmé à l'époque et c'est perdu quelque part, quoi, mais à ma connaissance, il n'y en a pas.
Alors, venons à la partie les exploités. Et vous nous parlez des relations entre les filles soumises et les mères en maquerelle.
Oui, bah, c'est-à-dire que les mères maquerelles étaient souvent elles-mêmes anciennes prostituées, donc c'est-à-dire celles qui tenaient les bordels ou les hôtels de passe, les bars mal famés, etc. C'est vu comme un peu l'aboutissement d'une carrière de prostituée. Ce qu'elles pouvaient espérer de mieux, c'était tenir leur propre établissement. Mais elles n'étaient pas pour autant très tendres avec les femmes qui y travaillaient. Au contraire, il y avait souvent une discipline de fer. Également, toujours problème de l'exploitation, où elles faisaient volontairement crouler les pensionnaires de leurs établissements sous les dettes, en leur faisant des cadeaux, des choses comme ça, mais qu'elles surfacturaient par la suite, en disant, si jamais quelqu'une des filles avait une réclamation à faire, en disant, attends, tu me dois tant d'argent parce que je t'ai offert une robe, parce que je t'ai offert ci. Tout était surfacturé. Les filles, souvent, n'avaient même pas le droit de sortir, à part le dimanche, pour aller à la messe, souvent. Mais elles n'ont souvent même pas le droit de sortir du bordel. Et donc, tout devait être amené de l'extérieur. Et les mères maquerelles, enfin, c'est bien connu, elles ont profité pour surfacturer le moindre sandwich qui avait pu être acheté, le moindre plat, afin que les pensionnaires soient tout le temps débitrices de leur patronne, quoi.
Oui, ce
C'est-à-dire que
sont des pratiques qui continuent à perdurer, pas seulement pour les prostituées, mais aussi pour les trafiquants de drogue, pour les passeurs.
La dette est leur meilleur ami, quoi.
Ouais.
Le système de la dette, ça permet de rendre les gens débiteurs.
Alors, au moins une expression que je ne connaissais pas, ce que vous avez appelé la remonte à l'Achille.
Ouais, alors donc là, ce qu'on appelait la remonte dans l'argot du milieu, c'est le fait d'engager de nouvelles filles dans la prostitution. Donc c'était principalement, donc c'est-à-dire recruter quoi, des nouvelles prostituées, passer principalement dans les bals. Et le terme shill, c'est un terme de la belle époque qui désignait les proxénètes les plus violents. Donc, la remonte à la shill, c'était le recrutement violent de nouvelles prostituées, c'est-à-dire là qui étaient, elles étaient contraintes quoi. Une fille un petit peu esseulée, souvent c'était très rarement des Marseillaises d'ailleurs qui travaillaient dans le quartier réservé. Dans le système prostitutionnel, il fallait qui fonctionnait mieux, c'était les filles aux abois, si on veut. Donc des filles qui venaient d'ailleurs, d'autres provinces, etc., qui arrivaient à Marseille un petit peu seules à la recherche d'emploi. Et là, il y avait tout un tas de rapaces qui essayaient en fait de les attirer vers ce monde-là. Donc la remonte à l'Achille, c'était on faisait quelques promesses à une fille, et un beau matin, elle se réveille dans un bordel et on lui dit si tu bouges de là, on te tue, si tu te plains à la police, on te tue, etc. Et elle ne savait pas où aller pour se défendre, quoi. Ça, c'est la remonte à l'Achille, mais à côté de ça, il y avait la remonte classique, qui était une espèce de travail de joli cœur un petit peu. C'était les recruteurs allaient dans le.
C'est ce que vous appelez la remonte à la tchatch.
Ouais. Alors ça, c'est moi qui ai inventé l'expression, mais je pense qu'elle est assez parlante. Donc c'était les bals, quoi. Les bals étaient très fréquentés, et notamment par les jeunes macros de Marseille, qui étaient souvent des beaux gosses, très bien habillés, puisqu'ils avaient de l'argent, très soignés. Il y avait une espèce de comment elle s'appelle? Marie Paoleski, qui est une ancienne prostituée, elle parle d'un charme animal. En fait, elle avait un charme animal qu'elle avait attiré quand elle était jeune, c'est pour ça qu'elle est devenue prostituée. Et qui, en les faisant danser, en leur promettant monts et merveilles aussi, il y avait beaucoup de mensonges dans tout ça, arrivait à les charmer et ensuite à les convaincre d'aller se prostituer pour leur bien, pour gagner un peu d'argent, pour pouvoir ensuite partir vivre loin. Mais en fait, elle rentrait dans un système dont elle ne pouvait plus sortir, quoi. Une fois qu'elle rentrait là-dedans, c'était des problèmes, puis les hommes étaient souvent très violents. Donc c'était difficile d'en sortir.
Ensuite, de manière plus élégante, il y a ce que vous appelez amour et baratin.
Tout à fait. Oui, parce que ce qu'on sait peu aujourd'hui, c'est que la relation entre macro et prostituée, uniquement une relation de contrainte. Il y avait une ambiguïté amoureuse bien réelle. C'est que la plupart des prostituées rentraient là par amour. C'est-à-dire que donc j'ai parlé des macros dans les bals, etc., qui arrivaient à charmer ces filles. Ensuite, ils étaient souvent un peu plus âgés aussi, mais les filles étaient souvent très jeunes, 16-17 ans, quoi. Ils arrivaient à leur promettre à les rendre amoureuses, quoi. Et les filles, par une espèce d'attachement amoureux assez malsain et de désespoir amoureux, finissaient par devenir les objets de ces personnes-là et de faire tout ce qu'ils voulaient. De ça, on a des tas de témoignages, des lettres, etc., prostituées qui racontent qu'elles sont folles amoureuses de leur macro et qu'elles feraient tout pour lui, quoi. Si elle travaille, c'est pour le bien du macro, parce qu'il faut qu'il soit bien habillé, il faut qu'il ait une belle vie, il ne faut pas qu'il aille voler, sinon il finit en prison, on ne peut plus le voir. Il y avait cette espèce d'ambiguïté assez. Qu'avec les mœurs d'aujourd'hui, on a du mal à comprendre, mais où des filles, par une espèce de soumission amoureuse, étaient capables de se prostituer pendant des années pour un homme qui les considérait très peu en réalité, et même quand elles s'en rendaient compte, peut continuer à l'aimer plus que tout.
Il y a quelques chansons qui
Ah ouais.
témoignent de ces comportements.
Bah, la chanson réaliste, que ce soit Fréhel, bah, principal Fréhel, c'est la plus célèbre, celle qui a les plus belles chansons, d'après moi. Mais la chanson réaliste des années 30, exprime énormément cet état de fait, quoi. Elle parle beaucoup de prostituées amoureuses, etc., de leur homme, et que leur homme va avoir d'autres filles. Ce sujet-là est un sujet récurrent, quoi. Ça veut dire que c'était une réalité de cette époque, quoi. La marginalité du bas-fond des villes, il y avait ce monde-là qui existait avec cet amour très particulier du macro et de la prostituée. C'était des rapports assez ambigus, assez surprenants parfois.
Ouais. Il me fout des coups et je l'ai dans la peau.
Ouais, c'est ça, je l'ai dans la peau. Il peut me donner des coups, mais c'est l'homme qu'il me faut. Ça, c'est
C'est ça.
Cruel. Je me rappelle plus le titre exactement. C'est le mal qu'il me faut, je crois. C'est le nom de ce morceau-là.
Ouais. Ensuite, vous arrivez aux cinq sens réservés, cinq sens du réservé.
Ouais, bah ça, c'est grâce principalement aux reporters. Donc, à la fin des années 20, il y a eu toute une mode du reportage des bas-fonds, un petit peu. Et également à travers les écrivains qui ont décrit le quartier réservé, qui l'ont fréquenté et qui l'ont décrit. Et ils ont notamment décrit les sensations physiques qu'il y avait eu, qui m'a permis d'écrire un chapitre sur ces sensations-là, c'est-à-dire les sensations physiques même de la viscosité de l'air. Il parle de ça notamment, les odeurs d'un quartier qui était très insalubre et assez immonde, quoi. Ça, tout le monde dit que ça puait dans tous les coins, il n'y avait pas de tout à l'égout, donc les gens jetaient les ordures par la fenêtre. Il y avait vraiment une odeur très désagréable. Donc tous ces témoins ont témoigné de toutes ces sensations, le bruit aussi. Il y avait énormément de musique, comme j'ai dit tout à l'heure, avec les artistes de rue, mais aussi il y avait les premiers. Dans tous les bars, chaque bar avait son piano mécanique, son phonographe, les bordels avaient leurs orchestres. Étant donné, on estime qu'il y avait à peu près 90 établissements de luxure dans le quartier réservé, ça faisait une cacophonie qui était vraiment très puissante, quoi, de ce qu'on raconte en tout cas les témoins de l'époque. Il y avait du bruit partout, tout le temps. En plus de ça, il faut rajouter les cris, les rires, les chansons de marins, etc. Donc il y avait ce brouhaha continuel. Tous sont décrits, hein, que ce soit Albert Londres, Pierre Macorlan ou d'autres, ont tous décrit ce bruit-là, quoi.
Et ensuite, vous arrivez à l'enfance du vice.
Oui, là, c'est l'origine du quartier réservé. C'est-à-dire pourquoi est-ce qu'il a été créé, comment, à quel endroit, à quel moment, qu'est-ce qui y a amené, quoi, finalement.
Donc, en fait, il y avait besoin de cantonner les prostituées, comme il y a eu besoin, c'était un décret de Louis XIII, si ma mémoire est fidèle. Qui interdisait la présence des pauvres dans les rues. Et c'est comme ça, notamment, qu'à Marseille a été construite la Vieille Charité,
Tout à fait. Bah,
qui était la charité à l'époque, elle n'était pas vieille.
des questions un petit peu de contrôle des classes dangereuses, quoi, comme on dit.
C'est ça.
C'est-à-dire qu'en fait, Marseille est devenue une ville avec une prostitution très importante sous Louis XIV, au moment où il a installé l'arsenal, comment on appelle ça? L'arsenal des
L'arsenal des
galères.
galères.
Exactement. Donc il y a une population masculine très importante qui est arrivée. Je crois que c'est 12 000 bagnards, 4 000 soldats. Ça faisait beaucoup d'hommes pour une ville qui était à peu près 50 000 habitants à l'époque. C'est là où la prostitution a explosé. Ça, c'est le point de départ qui a fait de Marseille un pôle prostitutionnel important en France, en Méditerranée, à cette époque-là. Ensuite, au fur et à mesure que le port s'est développé, il y a eu énormément de passages par Marseille, avec la percée du canal de Suez, les colonies, les docks de la Joliette. Marseille a charrié énormément de personnes, principalement des hommes, principalement des marins, et qui voulaient aller voir les filles. Donc la prostitution a continué à se développer. Au même moment, on a des nouveaux quartiers qui sont apparus au sud de la Canebière, des quartiers bourgeois, l'Opéra notamment, le Prado, étaient également des quartiers festifs. Donc la prostitution, de plus en plus importante, a commencé à se répandre ces quartiers sous les fenêtres de la bourgeoisie. À cette époque-là, au 19e, il y a également un certain moralisme bourgeois qui a commencé à émerger, plus fort qu'auparavant. Cette nouvelle bourgeoisie, très croyante également et très pudibonde, ne pouvait plus accepter d'avoir ce spectacle sous leurs yeux qui était. Enfin, la prostitution était vraiment partout. On a notamment des témoignages de. Je crois que c'est Flaubert, dans sa jeunesse, qui a fréquenté Marseille et puis il raconte des scènes incroyables dans le quartier de l'Opéra, justement. Donc c'est à ce moment-là, à force de plaintes, etc., que la municipalité, pour lutter contre cette prostitution qui se répandait de partout, a décidé de le cantonner dans un petit secteur pour essayer d'en limiter le développement. Évidemment, ce petit secteur, où est-ce qu'il était placé? Chez les pauvres, chez les Italiens, soit loin du regard des notables, si on veut. Et il y avait aussi une raison de contrôle hygiénique. Ça, c'était important, puisqu'on avait très peur des maladies vénériennes, qu'elles se répandent dans la population et dans les armées. Marseille était une ville de transit pour les armées qui partaient en Afrique du Nord, notamment, et une ville de garnison. Donc, il y avait aussi, avec ce quartier, l'idée de contrôler les prostituées. Il y avait une visite par semaine obligatoire chez le médecin. Si jamais elles étaient contaminées, on les emmenait de force à l'hôpital de la Conception, où elles devaient être soignées. Elles avaient, avec, là encore, c'était presque. C'était dans des situations de prisonnières, quoi. Encore considérées comme de simples objets, on les mettait là de force, avec des règles extrêmement strictes. Il y avait même des espèces de mitards qui avaient été installés pour les fortes têtes, etc. Quoi. On les soignait de force pour être sûr que la population ne soit pas contaminée. Et tout ça sans passer par la justice, quoi. C'était uniquement des un médecin qui. Donc c'était hors système judiciaire, si on veut, quoi.
Oui, le médecin du quartier décidait qu'il y avait une
Voilà,
infection
c'est ça. Alors, ce n'était pas le médecin du quartier, c'était des médecins qui étaient choisis expressément pour cette tâche, ça se
d'accord.
passait à l'hôpital de l'Hôtel-Dieu, principalement.
C'était déjà les médecins du travail.
Voilà, c'est ça, si on veut. Et ils travaillaient à la chaîne, quoi. Je ne sais plus c'était combien, mais ils voyaient 200 prostituées par jour, parfois, quoi. Donc,
Ah oui, c'est
ça
énorme
allait
ça.
très, très vite, et c'est oui, non, oui, non, oui, non. Celle-là, elle doit partir à l'hôpital, elle partait 6 mois jusqu'à ce qu'elle soit soignée, quoi. Avec aucun recours quoi, pour ces filles-là. Elles n'avaient pas le choix, alors que c'était des citoyennes comme les autres, au fond. Et là, on les jetait là-bas et à être retenues dans ces endroits-là. C'est ainsi que ça se passait.
Alors venons à la belle époque des Nervis.
Là, ouais, alors les Nervis, donc c'est le terme de l'époque pour désigner un petit peu les petits délinquants, quoi, si on veut. Enfin, c'est un terme qui a énormément évolué, notamment la chercheuse Laurence Montel a beaucoup travaillé sur le sujet. Là, elle vient de sortir un livre qui s'appelle Marseille, capitale du crime, où elle développe bien ce terme. Donc, au départ, le terme de Nervi, au début du 19e, désigne un petit peu la jeunesse un peu turbulente des vieux quartiers, quoi. Pas très bien méchante, fait partie un petit peu du folklore marseillais. Elle vient des personnages type de Marseille, le petit Nervi, c'est le petit cacou un peu agité, quoi. Et petit à petit, cette dénomination, elle a petit glissé vers quelque chose de beaucoup plus angoissant et de pathogène. Elle a fini par désigner vraiment les gangsters purs et durs, proxénètes, voleurs, violents, armés, qui tirent pour un oui ou pour un non. Et donc c'est le terme utilisé pour parler notamment pour les proxénètes du quartier réservé. Ils appelaient les nervis, quoi. C'est les petits turs de la vieille ville, si on veut. C'est très jeune. En général, dans la plupart des archives judiciaires, les jeunes proxénètes ont entre 18 et 25 ans, pas plus, quoi. Dès 30 ans, on était déjà un vieux, quoi, autour de 1900. Et donc, c'est eux, à cette époque-là, qui dirigeaient le quartier réservé. Il y avait la gâchette facile. On a beaucoup de traces, soit dans les journaux, de fusillades pour un oui, pour un non. Ils étaient tous armés, quoi, de toute façon. Et cette période-là, quoi, qui va plus ou moins. Alors, l'âge d'or, si on veut, des Nervis, c'est 1900-1908. L'âge d'or dans le sens de la période la plus violente, quoi, en fait. 1900, c'est un petit peu le moment de constituer un premier milieu, premier crime organisé marseillais autour du quartier réservé. Et 1908, c'est le moment où la police de Marseille est étatisée, c'est-à-dire qu'elle est sous tutelle de l'État et donc elle reçoit beaucoup plus de moyens, une meilleure organisation, permet un petit peu d'épurer les bandes de Nervis sans foi ni loi. Il y avait pignon sur rue jusque-là. Ça a permis une meilleure lutte contre ce phénomène-là, quoi. Donc il y a une espèce de période, quoi, 1900-1908, qui est extrêmement violente. Bien, c'était un petit Far West, quoi. Far West Marseille.
Et ensuite, ces guerres et après-guerre, l'âge d'or.
Ah ouais, l'âge d'or, bah, qui démarre en 14-18, parce que pendant la guerre. Ben, il fallait bien faire venir sur le front tous les tirailleurs des colonies, également ceux qui venaient des colonies des pays alliés, notamment des dominions anglais, et ils passaient par où, très souvent, et ils transitaient par Marseille. Donc pendant la guerre, en fait, le monde entier passait par Marseille. C'est-à-dire, il y avait des gens de l'océan Pacifique, d'Afrique, évidemment, d'Asie, également tous les réfugiés d'Europe du Nord, soit Pays-Bas, Belgique. Beaucoup sont venus à Marseille, également beaucoup de réfugiés serbes. Et donc à ce moment-là, Marseille, c'était une ville plus que jamais internationale, avec beaucoup de gens qui transitaient, comme j'ai dit, beaucoup d'hommes jeunes. Et avant d'aller au front, où est-ce qu'ils voulaient aller? Bon, bah, ils voulaient aller au bordel pour la plupart d'entre eux. C'est là où le quartier réservé est vraiment devenu extrêmement célèbre dans le monde entier. Il a charrié vraiment des populations partout. Il y a eu. Il a explosé, quoi, à ce moment-là, si vous voulez. Et ça a perduré après la guerre. Une fois que sa célébrité a été faite pendant la guerre, après la guerre, ça a continué. C'est là où c'est devenu un quartier très, très célèbre. Il y avait même un tourisme du quartier réservé. On a eu des guides touristiques qui ont été édités à l'époque. Et des gens venaient pendant les. Faisaient des croisiéristes, par exemple, américains, anglais, parisiens. Et quand ils s'arrêtaient à Marseille, une des attractions touristiques, c'était le quartier réservé. C'est même pas forcément pour consommer une fille ou quoi, c'était parfois juste pour s'imprégner de l'ambiance locale, quoi. Donc il y avait tout ça qui est né après la guerre, qui a été un vrai tournant, quoi. Vraiment le quartier réservé d'avant la guerre. Et le quartier réservé d'après la guerre. Parce qu'après la guerre, il y a également, comme on l'a dit au début de l'émission, la drogue qui est apparue. Les premiers temps. On a l'arrivée du jazz également. C'est de nouveaux styles musicaux qui arrivent. Le jazz à travers les pianos mécaniques, mais aussi quelques orchestres itinérants, notamment de soldats noirs américains qui arrivaient de la Nouvelle-Orléans, qui eux aussi allaient au bordel. Et puis certains avaient amené leurs instruments. Donc ils ont commencé à jouer dans ce bordel-là, etc. L'après-guerre, c'est aussi le moment où il y a beaucoup de gens des colonies qui viennent dans le quartier réservé. Il y avait notamment une main-d'œuvre de plus en plus importante qui arrivait d'Algérie, beaucoup de marins qui arrivaient du Sénégal, des Antilles, d'Indochine. Là, le quartier réservé, beaucoup plus qu'avant, est devenu réellement très, très cosmopolite, quoi. Marseille, à ce moment-là, est devenue une ville très cosmopolite, et le quartier réservé particulièrement, qui charriait des gens du monde entier, absolument du monde entier.
Et donc on arrive aux années folles du réservé.
Et ouais, bah c'est tout ce que je viens de décrire plus ou moins, quoi. C'est-à-dire cette
Voilà.
période-là est un peu une sorte d'âge d'or, si on peut dire, du quartier réservé, avec tous ces éléments et avec le commerce qui se développait. Donc il y avait aussi beaucoup plus d'argent à se faire. Le milieu qui a commencé après-guerre à se structurer plus qu'autrefois, donc autour de 1900 avec les nervistes, c'est balbutiant. Mais comme on l'avait dit, il y a des réseaux internationaux qui ont commencé à se mettre en place avec le proxénétisme, notamment en Amérique du Sud. Et après-guerre, c'est le moment où tout ça commence à se structurer beaucoup plus, et avec le milieu qui avait la main mise sur le quartier réservé, le milieu avec beaucoup de Corses et d'Italiens, mais pas uniquement, quoi. Il y avait aussi des ténors d'Algérie, des Marseillais d'origine, c'était très cosmopolite, beaucoup de proxénètes antillais aussi, proxénètes indochinois, proxénètes sénégalais, kabyles, enfin, un quartier monde, si on veut, voilà. Et c'est un
Ouais,
quartier.
c'était vraiment les échanges internationaux.
Tout à fait, ouais, tout à fait. Et les filles aussi étaient majoritairement des Françaises, les filles qui travaillaient. On avait aussi des filles d'ailleurs, quoi, quelques-unes d'Afrique du Nord, on avait des Allemandes, des Italiennes, enfin, c'était assez international à ce niveau-là aussi. De toute façon, Marseille était une ville internationale en ce temps-là. Dans le quartier réservé, c'est encore plus visible. Tous les témoignages d'époque le disent bien, quoi, c'est que le monde entier se trouve là, quoi.
Je reviens sur le quartier réservé. Est-ce qu'après la mise en place du quartier réservé, il n'y avait pas d'autres prostituées dans les rues de Marseille?
Si, si,
Est-ce
bien
que...
sûr. Bien sûr, l'idée du quartier réservé, c'était une idée un peu utopique, en pensant qu'en limitant la prostitution légale dans le quartier réservé, ça allait résoudre tous les problèmes. En fait, pas du tout, parce que là, pour travailler dans le quartier réservé, il fallait être enregistré, avec notamment les contrôles policiers et les contrôles médicaux obligatoires, ce à quoi beaucoup de filles voulaient échapper, puisque c'était emmerdant, quoi. Il y avait le risque d'être enfermé pendant des mois à la conception, à l'hôpital. Donc la prostitution, bien sûr, a continué à fleurir, à fleurir ailleurs, quoi. Donc, notamment à Belzunce, énormément dans le quartier de l'Opéra, ça a continué jusqu'à très tard. Le quartier de l'Opéra, évidemment, là, c'était la prostitution un peu plus haut de gamme, si on peut dire, quoi, avec des hôtels de passe un peu plus de luxe. Et en fait, elle fleurissait à peu près partout dans le centre-ville, à Noailles, au Chapitre. Enfin, dans la plupart des quartiers, on a des traces d'une prostitution importante. Le quartier réservé a peut-être un petit peu limité le phénomène, mais on sait que les trois principaux pôles de prostitution, ça restait donc Belzunce et la Porte d'Aix, quoi, toute cette zone. La prostitution un peu de bas étage, si on peut dire. L'opéra pour la prostitution de gamme, et le quartier réservé qui était plus dirigé vers les étrangers, quoi. c'est-à-dire les marins, les soldats, les visiteurs, les travailleurs immigrés, etc., quoi. Il y avait un peu, ça essaimait un peu partout. En gros, les autorités n'ont pas réussi à obtenir ce qu'elles voulaient. Le quartier réservé a été un échec, ça a été. Il y a eu des recherches là-dessus. Je crois qu'il n'y a aucune ville où ça a fonctionné, même si, comme j'ai dit, il y a eu des essais à Toulon, à Montpellier, à Brest, dans les colonies, mais nulle part ça a eu l'effet escompté.
Il y a quelques années, il y a eu l'ambition de transformer la rue Tubano en rue désert. Et cette idée a fait fleurette. Il y a eu, je ne sais pas, 50 galeries qui se sont installées. Elles ont fermé les portes les unes après les autres. Est-ce qu'il y avait dans le quartier réservé, à Saint-Jean, est-ce qu'il y avait des activités artistiques et culturel.
Alors, directement, non. Mais par contre, c'était un quartier énormément fréquenté par les artistes. À partir de la Belle Époque, il y a les peintres principalement, quoi. C'est un peu on pourrait comparer ça à Pigalle, peut-être, quoi,
D'accord.
dans une moindre mesure. Mais c'est un quartier qui était énormément fréquenté par les peintres. Donc, tout d'abord, les fauves, autour de 1900, les fauves provençaux, mais également parisiens, puisque c'est que Henri Matisse ou Albert Marquet ont été des aficionados du quartier. Ça, on le sait grâce à leur correspondance, quoi. Ils s'écrivaient des lettres, on a retrouvé tout ça et on sait qu'ils le fréquentaient. Et côté marseillais, on a Charles Camoin, Alfred Lombard, Antoine Ferrari pour cette époque-là, quoi. C'était très nombreux à fréquenter ce quartier-là, déjà pour aller s'y amuser si on veut, mais pour certains d'entre eux aussi chercher une source d'inspiration, quoi. On a pas mal de toiles, entre 50 et 100 toiles qui représentent le quartier réservé, qui ont été inspirées du spectacle que les peintres ont pu en voir. Et après-guerre, ça a complètement explosé. Là, c'était vraiment un passage, un artiste qui passait à Marseille, il fallait qu'il passe au quartier réservé. C'était presque un passage obligé, comme j'ai dit, comme Pigalle à Paris. Et là, il y a eu tout un flopé de peintres avec une petite bohème, quoi, qui s'est créée dans le quartier réservé. Et avec des peintres qui étaient protégés par certains caïds du milieu, quoi. C'est-à-dire, on avait d'abord un certain Poussin Landy, qui est un Corse d'origine, je ne sais plus d'où est-ce qu'il vient en Corse, mais un proxénète corse de Marseille, qui était le patron officieux d'un bordel qui s'appelait Chez Aline, qui était devenu le bordel des artistes. Donc lui, c'était un petit peu le mécène du quartier réservé, quoi. Il accueillait les artistes, il leur trouvait où dormir, il leur fournissait, et puis il les protégeait contre d'éventuels agresseurs, parce qu'il y avait, comme je l'ai dit, c'était un quartier assez dangereux. On pouvait facilement se faire dépouiller par des rôdeurs. Donc, il y a eu ce Poussin Landy et quelques autres qui étaient un petit peu les protecteurs des artistes du quartier réservé. Donc, j'ai parlé des peintres, mais il y avait également des poètes, des écrivains, enfin, ils étaient très nombreux. C'est Jean Cocteau, par exemple, l'a fréquenté, Pierre Macorlan, Francis Carco. Avant eux, il y a eu Guy de Maupassant aussi à la fin du 19e, et même Céline, à la fin des années 30, Ferdinand Céline, qui a fait un petit tour. Enfin, ça a charrié beaucoup de monde. Et
D'accord.
également, ce qui est moins inconnu, Jean Genet, il n'y allait pas en tant que touriste, lui, il y allait prostituer carrément, quoi. Quand il avait 16-17 ans, il a fait une fugue et il s'est prostitué dans le quartier réservé pendant quelques semaines.
D'accord.
Il était de l'autre
Et
côté.
on arrive à déclin, chute et fin.
Ouais,
On va
ça.
commencer par le déclin.
Oui, tout à fait, ouais. Donc, le déclin du quartier réservé, c'est dans les années 1930. Donc, après un âge d'or très florissant dans les années 1920 dont on a parlé, il y a eu notamment, alors il y a plusieurs explications. Une des explications, c'est notamment la crise de 1929. D'un seul coup, bah, il y a eu plus de pauvreté, les gens avaient peut-être moins d'argent pour aller voir les filles dans ce quartier-là. En tout cas, les observateurs de l'époque, même les Macquarots eux-mêmes, c'est comme ça qu'ils expliquaient le déclin du quartier. C'est le fait que les gens avaient moins d'argent à cause de la crise. Il y a également le fait que le quartier, à force d'être médiatisé, finalement a fini par avoir une très mauvaise réputation. Et beaucoup de gens avaient peur d'y aller finalement. Ils avaient entendu tellement d'histoires de règlements de compte, de bagarres, etc., qu'il y a eu une certaine crainte du quartier réservé. Et en plus, c'est un quartier très cosmopolite, avec des Noirs, des Arabes, des Chinois, des Espagnols, etc. Donc, ça aussi, il y a une espèce de crainte de l'autre, quoi, en imaginant que c'est des gens plus sauvages que d'autres. Et donc, il y avait toute cette crainte que le quartier réservé a commencé à décliner. Et également, en 1932, il y a eu un arrêté préfectoral qui a donné l'autorisation à certaines maisons closes d'ouvrir hors du quartier réservé. À ce moment-là, la prostitution légale n'a plus été légale que dans cette zone-là, mais a pu s'étendre ailleurs. Il y a eu plusieurs autorisations à Bellecinq, à l'Opéra, et ailleurs, je crois même qu'il y en a une à l'Estaque, je crois, pour une maison. Et donc, comme ça, la prostitution a commencé à se sortir du quartier réservé, si on veut. Et c'est un petit peu Bellecinq, c'est l'Opéra qui ont pris le relais à ce moment-là, quoi. Mais les années 30, c'est vraiment, bah, c'est dit dans toutes les sources qu'on a, c'est une période de déclin avec des bordels qui ferment, qui sont revendus, qui certains sont transformés en restaurants, en hôtels, quoi, parce qu'il y a, il y a plus tellement d'argent à gagner. Et puis, il y a une trop forte concurrence entre proxénètes aussi, ils sont trop nombreux sur le marché, quoi. Donc, effectivement, les années 30, c'est le moment du déclin.
Puisqu'on arrive à la fin, il y a en ce moment à Marseille une exposition à propos de Pouillon. C'est une très belle exposition qui montre la plupart des réalisations, enfin des constructions dont Pouillon a été l'architecte. Et elle est ouverte toute la journée et je pense encore jusqu'à la fin du mois.
Et d'entrer les questions de la destruction, j'imagine, vu que lui, il a construit par-dessus les ruines du quartier réservé, notamment.
Ben, cette exposition montre ces constructions, mais ne montre pas la destruction.
D'accord.
En
D'accord,
fait,
oui.
c'est une exposition sur les réalisations de Pouillon à peu près dans le monde entier, mais notamment à Marseille où il a construit beaucoup de bâtiments, et notamment le bâtiment qui a été construit à la place des nouvelles galeries sur la Canebière.
D'affaires.
Au moment de, enfin, après l'incendie qui a détruit et qui a déclenché la création du bataillon des marins-pompiers, il a fallu reconstruire à cet endroit et donc c'est Pouillon qui a construit cet immeuble. Mais
D'affaires.
chez.
Et les immeubles du bord de mer, quoi. Vieux
C'est
port,
ça,
enfin, fond de mer
c'est ça.
plutôt.
Ouais, mais j'ai découvert en visitant cette exposition, et pourtant je croyais bien connaître Marseille, mais j'ai découvert plein d'autres constructions de Pouillon à Marseille.
Oui, il y en a plus que ce qu'on croit en fait. C'est un travailleur acharné, lui, de toute façon. Je ne
Ah ouais,
sais pas combien d'immeubles il concevait par année, mais c'était quelque chose d'incroyable, quoi.
Ah ouais, ça
Il
a
dormait
été un.
presque pas et il passait son temps à imaginer des immeubles. Ouais, c'est incroyable tout ce qu'il a pu construire.
Ouais.
Et notamment, comme on le disait, sur les lieux de l'ancien quartier réservé.
C'est
Qui a
ça.
été entièrement rasé, alors pas le quartier réservé seul, mais le quartier réservé et toute la zone alentour, entièrement rasé par les Allemands en février 1943.
Ouais. Mais il y a beaucoup d'histoires à propos de la démolition de ce quartier. Certains historiens indiquent que c'est la majorité municipale qui souhaitait détruire ce quartier pour se débarrasser de tout ce qu'on a indiqué, hein, de la pègre, de la prostitution, de la saleté. Et d'autres disent que ce sont les Allemands qui ont voulu détruire le quartier. Mais en fait, j'en arrive à croire que la réalité, c'est un mélange des deux. Il
Tout
y a
à
eu
fait, comme souvent.
une entente concordante entre. Le conseil municipal de Marseille et puis les troupes allemandes qui étaient.
Absolument. Bah, disons que l'idée de démolir les vieux quartiers, on appelait ça les vieux quartiers, quoi, toute cette zone. Donc, comme je disais, le quartier réservé, c'était une petite partie, quoi. Le quartier réservé, c'était peut-être un quart ou un cinquième des vieux quartiers. Mais cette idée de le détruire pour faire des quartiers neufs, plus salubre, plus aéré, plus moderne, elle date même du 19e siècle en fait. Donc, quelque chose qui était dans l'idée, dans la tête des édiles marseillaises, et quelque chose de très ancien, comme on avait détruit de nombreux quartiers pour construire la rue de la République. Là aussi, c'était des vieux quartiers insalubres qui avaient été démolis. Et donc cette idée était dans les tiroirs depuis très longtemps. Mais l'arrivée des nazis a accéléré le mouvement, on peut dire. Parce que, par exemple, le quartier de la Bourse, il a fallu, je crois, 22 ans pour le démolir entièrement, pour le faire dans les règles, en expulsant les gens de manière légale. Les nazis, eux, en 2 jours, c'était réglé, quoi. En 2 jours, il n'y a plus personne dans le quartier. En 2 semaines, il n'y avait plus un seul immeuble. Ils sont allés avec leur méthode radicale, si on veut. En tout cas, oui. et dans la tête de beaucoup de Marseillais, pas que dans les édiles, mais beaucoup de gens considèrent à l'époque ces quartiers-là, c'est la honte de Marseille, il fallait les détruire. C'était des quartiers également insalubres, etc. C'était des nids de criminalité. Donc c'est une idée qui était quand même dans les esprits depuis longtemps. Donc l'arrivée des Marseillais, des nazis a été une aubaine pour certains dans ce cadre-là. Et après, il y a aussi beaucoup de débats sur les raisons de la destruction de ce quartier par les nazis, quoi. Il y a certains qui pensent que c'est uniquement une histoire de spéculation immobilière. Moi, je ne pense pas, mais ça, c'est un avis personnel. Parce qu'on sait que dès que la destruction a commencé, des sociétés de reconstruction ont été créées à cet effet. Et notamment des gens proches de la mairie. Donc, on a imaginé que l'unique raison de la destruction, c'était pour gagner de l'argent, quoi. Moi, je pense plutôt que l'occasion a fait le larron, que sachant que ça allait être détruit, certains se sont dit, on va essayer de maximiser les profits par-dessus, quoi. Pas que ce soit la raison principale. Et la raison principale, malheureusement, c'est la mauvaise réputation du quartier. Je ne peux pas aller chercher plus loin. C'est que le quartier était connu internationalement et l'état-major nazi connaissait l'existence de ce quartier-là à Marseille. C'est que Himmler le connaissait, Hitler sans doute aussi. Parce que Marseille avait mauvaise réputation, elle était pas comme aujourd'hui en fait. Elle est connue dans toute l'Europe pour être ce qu'on appelle une capitale du crime, quoi. Et à l'époque, on savait qu'il y avait ces deux quartiers-là qui concentraient beaucoup de ces problèmes à travers la littérature, les reportages, à travers les écrits philosophes, etc. Je pense que pour les nazis, ça représentait l'antithèse de leur idéal de société. Là, c'est un vieux quartier, cosmopolite, mal géré, avec des ruelles difficile à contrôler, c'est vraiment tout ce qu'il détestait, quoi. Donc le détruire, c'était tout à fait logique par rapport à leur idéologie, en tout cas, et notamment avec cette mauvaise réputation. Et on a, elle s'appelle la chercheuse Anne Portiello, qui est une historienne et qui est descendante de gens qui ont vécu dans le quartier. Elle dit cette phrase, une ville, la destruction du vieux quartier est la preuve qu'une ville peut mourir d'une mauvaise réputation. Je pense qu'elle résume très bien le propos, quoi. Après, il y a sans doute des raisons éparses, très multiples, qui ont amené à cette destruction. Mais une des principales, c'est la mauvaise réputation, d'après moi.
Il y a 2 ans, un livre est sorti dont le titre est Marseille, la mauvaise réputation.
Tout à fait, oui, je vois très bien ce livre-là. Et donc, il y a un livre que je citais tout à l'heure qui s'appelle Marseille, capitale du crime, de Laurence Montel, et qui est sous-titré Naissance d'un imaginaire. Je pense qu'il apporte aussi sa pierre à l'édifice de cette réflexion intéressante sur comment cette image de Marseille comme une ville dangereuse, etc., a pris naissance. Elle part du 19e siècle, jusqu'en 1943, je crois justement, ou 45. Et c'est une réflexion intéressante, quoi.
Mais moi, je suis agréablement surpris par le nombre de livres qui sont écrits à propos ou sur Marseille. Et là, je dois prochainement réaliser un entretien avec Margot Mazelier qui a écrit Marseille trop puissante.
Ah oui, je vois, ouais. Sur le féminisme à Marseille, c'est bien ça?
Ouais,
L'histoire du
ouais, ouais.
féminisme à Marseille, ouais. Oui, bah, de toute façon, c'est une ville riche d'histoire, quoi. On dit que c'est la plus vieille ville de France, même s'il y a débat avec Béziers, je crois, mais on va dire parmi les grandes villes, c'est la plus ancienne. Donc, il y a une histoire très importante et surtout peut-être un travail historique qui n'a pas toujours été fait et qui mérite d'être rattrapé aujourd'hui, quoi.
Mais ça reste une ville importante d'un point de vue historique, mais aussi d'un point de vue de l'actualité.
Oui, moi aussi, tout à fait, ouais. Ouais.
Marseille continue à occuper l'espace médiatique, économique, social, sur les 5 sens dont vous parliez tout à l'heure, en fait.
Ouais. Bah, c'est une ville très particulière, quoi, qui est unique en son genre, je pense.
Eh bien, merci Martin Huc pour toutes ces explications. Je rappelle le titre de votre livre, Marseille interdite, 1873-1943, Histoire du quartier réservé, qui est publié par la Manufacture du Livre et que l'on trouve dans toutes les bonnes librairies. Merci
Merci
beaucoup.
beaucoup. Merci et bonne journée.